Connaissez-vous votre intelligence émotionnelle? Savoir identifier, comprendre, exprimer et écouter vos émotions et celles des autres serait un gage pour une vie plus heureuse avec une meilleure santé physique et morale à la clé. Le dossier de l'émission est consacré aujourd'hui justement aux stratégies possibles pour développer l'intelligence émotionnelle, mais également à la société émotionnelle dans laquelle nous vivons et qui intéresse particulièrement la sociologie. Le dossier est en partenariat avec le magazine Cerveau Psycho et j'attends dès maintenant vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour Mathieu.
La théorie du cerveau social testée sur des singes, c'est à la une de la science aujourd'hui.
Oui, avec cette question, pourquoi la présence d'autrui influence parfois nos capacités à réussir certaines actions? Une expérience menée sur des macaques nous éclaire sur le fonctionnement de notre cerveau à plusieurs. On en discute avec le neurobiologiste Driss Boussaoud.
Et puis comme tous les mercredis, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5 avec ce soir un documentaire sur notre planète Terre dans l'œil des satellites. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission préparée aujourd'hui par Dylan Bainer avec Benoît Tonzon.
Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'intelligence émotionnelle dans quelques minutes, donc au cœur de notre dossier. Je salue mes invités, Sébastien Boller de Cerveau et Psycho et le sociologue Julien Bernard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Sébastien Boller, vous avez donc décidé de nous aider à développer notre intelligence émotionnelle?
Oui, tout à fait.
Oui.
On peut tous progresser beaucoup sur ce point. Parce que on vit tous des émotions en permanence. Je crois que les études qu'on mentionne dans le dossier, c'est à peu près 90% de notre temps est placé sous le signe d'une émotion qui est présente en arrière-plan. Mais souvent, cette émotion, on ne sait pas forcément d'où elle vient, quel message elle nous adresse, comment l'utiliser, la réguler, la détecter chez les autres. Et quand on commence à savoir faire tout ça, alors là, un autre monde s'ouvre, c'est et ça. Surtout d'autres potentialités de développement et de décision.
Bon, vous allez donc nous ouvrir à un nouveau monde, Julien Bernard. Les sciences sociales ont franchi le pas, visiblement, pour s'intéresser également à la sociologie des émotions. En quoi est-ce que c'est scientifiquement intéressant dans votre domaine?
Comme on vient de le dire, les émotions sont partout dans nos vies individuelles, mais également, forcément, dans la vie sociale. Et donc, on ne peut pas se contenter d'analyser la société sans les prendre en compte. Depuis quelques années en effet, en particulier en France, depuis un peu plus longtemps outre-Atlantique, on s'intéresse à cet aspect-là de la vie humaine pour comprendre le comportement en société, le fonctionnement et le changement social.
Et c'est l'intelligence collective, les émotions collectives en particulier qui vous intéressent. On va en discuter avec vous dans quelques instants. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. franceinter.fr. Et encore une histoire de cerveau à la une de la science, puisque notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière lorsque nous sommes seuls ou entourés. C'est une expérience que nous avons tous fait, le stress paralysant devant un jury qui conduit à l'échec, ou au contraire, la présence d'un être cher qui nous transcende. Et bien cette branche des neurosciences appelée la théorie du cerveau social explique beaucoup de comportements, et aujourd'hui elle trouve même une explication nouvelle grâce à la neuroimagerie et grâce à vos travaux. Driss Boussaoud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS à l'Institut des neurosciences des systèmes à Marseille. Là, vous êtes en direct avec nous depuis Casablanca et vous signez ces travaux réalisés sur des macaques avec votre collègue Pascal Huguet. Comment est-ce que vous avez testé cette hypothèse du cerveau social sur des singes? Comment est-ce que vous avez procédé?
Alors, ce que nous avons fait avec Pascal Huguet, avec en particulier Marie Desmoliens, qui a fait son doctorat sur ce sujet, c'est de proposer à des macaques de réaliser une tâche simple dans laquelle ils associent des images à des cibles, et ils peuvent faire cette tâche soit en étant seuls, soit en étant accompagnés d'un congénère, qui est familier. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est chercher les bases neuronales d'un phénomène qui est très connu depuis plus d'un siècle en psychologie sociale, qui est celui de la facilitation sociale, dont vous avez parlé en présentant le sujet. Et alors, ce que nous avons trouvé, c'est que les neurones qui prennent en charge la réalisation d'une tâche simple qui n'a rien de social, eh bien, ces neurones peuvent s'activer de manière différente selon que le singe réalise la tâche seul ou en présence du congénère. Alors, on a appelé ces neurones des neurones sociaux parce qu'ils prennent en compte, tout en codant une tâche non sociale, ils prennent en compte le contexte de la présence ou de l'absence des congénères.
Alors, quelle était la tâche précisément que devait accomplir ce singe ?
Alors, c'est une tâche simple, sur un écran tactile, on lui présente une image et des carrés lumineux, et il a compris avec l'apprentissage que sa tâche c'était de trouver avec quel carré l'image particulière qui est présentée est associée. Donc, il fait plusieurs essais et on mesure le nombre d'essais qu'il lui faut pour apprendre à trouver les bonnes réponses. Et alors, oui.
Est-ce qu'il réussit mieux quand il est accompagné ou quand il est seul, alors?
Alors, dans le cas présent, il réussit mieux quand il est accompagné de son congénère.
Est-ce que vous avez une explication particulière? C'est un ami ou ils se connaissent bien?
Alors, c'est un ami, c'est deux macaques qui ont...
Ah, attendez, on a un petit problème de ligne, Driss Boussaoud. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà, ça y est, vous pouvez continuer.
Donc, c'est un congénère familier, comme je disais, et ce congénère familier, et donc sa présence apporte une sorte d'un effet confortant, et donc le singe qui exécute la tâche va l'apprendre mieux, il va la réussir plus rapidement, et alors en parallèle, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment les neurones s'active pendant l'exécution de la tâche en fonction de la présence ou de l'absence du congénère.
Pourquoi est-ce que c'était important de vérifier quelle zone était active dans cette théorie du cerveau social?
Alors, la théorie du cerveau social qui a émergé ces dernières années, essentiellement des travaux de la neuroimagerie, nous dit que dans le cerveau, il existe un ensemble de structures qui sont spécialisées dans le traitement de l'information sociale. Mais ce que nous montrons avec cette étude, c'est que...
Driss Boussaoud, à nouveau petit problème téléphonique.
Là, vous êtes reparti.
Voilà, mais vous allez revenir, j'en suis sûr.
Vous étiez en train de nous dire ce que vous montriez avec cette étude.
Et donc, nous avons montré que des neurones qui sont enregistrés dans des régions du cerveau qui ne sont pas particulièrement celles qui font partie du cerveau social, eh bien ces neurones, tout en codant l'exécution d'une tâche simple, visuomotrice, et ils prennent en compte la présence ou l'absence du congénère. Donc la présence d'autrui module notre activité, même si cette activité n'est pas sociale. Et ce que ce travail suggère en particulier, c'est que, étant donné que toutes nos activités sont modulées par la présence d'autrui, ce travail suggère qu'en fait, il faut revoir la théorie du cerveau social et que probablement toutes les régions de notre cerveau sont susceptibles d'être sous la modulation du contexte social.
Sébastien Boller, une réaction? Il faut revoir cette théorie du cerveau social, alors, remise en cause avec cette expérience?
Oui, moi ça me semble très nouveau, effectivement. Le fait que des neurones spécialisés dans des tâches fonctionnelles, individuelles, changent d'activité en présence d'un environnement social. On le sait tous, par exemple, le simple fait de parler à la radio en votre présence, je ne dirais pas les choses de la même façon que si j'ai dit tout seul dans ma chambre. Enfin, c'est évident. Ouais. Mais le fait de voir que le cerveau bascule un fonctionnement vers un autre, ça pose des vraies questions.
Ouais. Il y a une histoire d'émotion là encore là-dessus. Hein.
Certainement. Et sans doute aussi de cognition, hein, tout simplement, de façon d'envisager les mécanismes cognitifs de base, tout simplement.
Est-ce qu'il serait envisageable, Driss Boussaoud, de refaire l'expérience que vous avez menée, mais avec des hommes?
Alors, avec les humains, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas accès à des enregistrements de neurones unitaires, parce que là, nous sommes en train de regarder de l'activité de neurones à l'échelle individuelle. Les méthodes qu'on utilise chez les humains sont généralement l'imagerie ou le G ou la MEG, qui sont des méthodes un peu plus globales. Mais c'est possible parce que dans certaines situations, cliniques en particulier, on a accès à des enregistrements unitaires et je pense que si ces conditions sont réunies, ce serait très, très intéressant de voir dans quelle mesure on peut extrapoler ces données au cerveau humain.
Donc il va falloir poursuivre vos travaux, visiblement, Driss Boussaoud.
Tout à fait, le travail ne fait que commencer, oui.
Avec cette publication qui vient de paraître avec vos confrères donc du CNRS. Merci beaucoup Driss Boussaoud, vous étiez donc en ligne depuis Casablanca. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des nouvelles du loup en France, malgré une hausse des abattages ces dernières années. La population de loups augmente dans notre pays. 360 individus ont été comptés cette année contre 292 en 2016. Après deux années de stagnation, la croissance de la population repart donc à la hausse. Les meutes colonisent également de nouveaux nouveaux territoires comme l'Isère, la Savoie, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Selon Yvan Lemahaut de l'Université de Strasbourg, cette hausse peut s'expliquer par le contexte naturel et climatique particulièrement favorable cette année. Et une situation qui ne devrait pas suffire à apaiser les éleveurs ovins. Ne faites pas trop confiance à votre montre connectée pour le suivi de vos activités sportives. Si elles sont bien capables de mesurer le rythme cardiaque, il n'en va pas de même pour les calories brûlées. Quelles que soient les marques, les résultats sont similaires. Une équipe de Stanford a comparé donc les données relevées par les bracelets avec un équipement médical complet. Et les résultats montrent que la mesure du rythme cardiaque est correcte et correspond à la réalité physiologique. En revanche, l'estimation des calories brûlées est souvent erronée car elle dépend de chaque personne et de son métabolisme particulier. De multiples biais existent dans ces mesures en raison d'algorithmes d'estimation jugés particulièrement mauvais. Et puis pour terminer, le code secret de la force de Popeye enfin révélé puisque le génome complet de l'épinard vient d'être séquencé et publié. Les auteurs ont décodé l'ADN de plus de 120 types sauvages et cultivés d'épinards, des connaissances qui permettront une meilleure connaissance de la plante, mais surtout la production de plants OGM résistants aux maladies avec de meilleurs rendements et qualités. Environ 20 millions de tonnes d'épinards sont produits chaque année dans le monde. Allez, l'intelligence émotionnelle, on en parle dans un instant.
Michelangelo, something by the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists. And at the masquerade ball, you're trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Inside of an alley, you're out of words. When I thought it was radium at first. Just because of you.
Go. Au cours des trois dernières décennies, il est devenu évident que les facteurs émotionnels étaient importants pour bien vivre dans notre société ou pour réussir, dans la vie professionnelle par exemple. Ce qui compte, ce ne sont pas seulement les capacités intellectuelles, mais aussi quelque chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle.
Voilà, emotional intelligence, on va en parler donc de l'intelligence émotionnelle dans la tête au carré avec nos confrères du magazine Cerveau et Psycho qui donc consacrent un numéro à ce sujet dans leur dernier numéro. Sébastien Goller, vous êtes journaliste, écrivain et rédacteur en chef justement de la revue qui titre ce mois-ci « Comment bien utiliser ses émotions, bien-être, famille, travail ». Et puis Julien Bernard, vous êtes sociologue, maître de conférence à Paris-Nanterre et vous avez eu la drôle d'idée de vous intéresser à la sociologie du corps et des émotions dans un livre « La concurrence des sentiments, une sociologie des émotions » qui paraît aux éditions Métellier, et les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr. Pourquoi d'ailleurs, Julien Bernard, les sciences sociales entretiennent des relations ambiguës avec la question des émotions et des sentiments ?
Dans la tradition française, un de nos grands auteurs qui s'appelait Émile Durkheim avait considéré que l'objet de la sociologie était un fait social désincarné de l'expérience individuelle.
Ouais.
Ça a durablement marqué la sociologie francophone, française, et donc il y avait une espèce de partage du travail scientifique, un partage disciplinaire aux émotions, enfin à la psychologie les émotions individuelles, et à la sociologie le fonctionnement de la société. Or, on va vite comprendre, enfin je soutiens qu'on ne peut pas dissocier les choses aussi facilement, et que pour comprendre ce qui se passe dans la société, peut-être particulièrement dans la société actuelle, il faut s'intéresser aux émotions.
Ouais, vous parlez d'ailleurs même d'une société émotionnelle.
Je mets un point d'interrogation, ouais, quand même, parce que si on repense à la vie au Moyen-Âge qui était marquée par une peur permanente, par beaucoup de conflits sociaux, il y a aussi ce qu'un autre auteur a appelé un processus de civilisation qui consiste à réguler ses émotions, on va en parler avec l'intelligence émotionnelle, ouais, et qui se serait accrue au fil des siècles. Et finalement, il y a peut-être moins de conflits interpersonnels aujourd'hui, mais les conflits changent de forme, et on reste toujours soumis aux émotions qui sont évidemment aussi naturelles.
Sébastien Boller, les émotions justement, c'est un domaine très étudié par les scientifiques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du nouveau vraiment sous le soleil de cette recherche ?
Oui, alors il y a du nouveau. Il y a eu du nouveau en plusieurs temps. D'une part, quand on a commencé à parler d'intelligence émotionnelle, ça fait quand même maintenant presque 20 ans. Je sais pas si vous vous rappelez, à cette époque-là, c'était les recherches d'Antonio Damasio, un neurologue qui avait complètement changé notre vision de la raison et des émotions, qui expliquait que, contrairement à ce qu'on croyait par le passé, depuis l'Antiquité et puis à travers le christianisme, où on disait que les émotions perturbaient le jugement, lui, il avait montré que sans émotion, on ne peut pas prendre de décision rationnelle. Les personnes qui ont des lésions au cerveau qui les empêchent d'identifier leurs propres émotions prennent des décisions absurdes dans leur vie quotidienne. Donc ça, ça a été un premier jalon important où on s'est rendu compte que les émotions participaient à la prise de décision. Et dans la foulée est arrivé le concept d'intelligence émotionnelle qui disait que finalement, il faut pouvoir justement discerner ce qui se passe au niveau de nos propres émotions pour optimiser justement notre prise de décision. Et il y a eu après toutes ces études qui correspondent à ce que disait cette chercheuse allemande sur le fait que l'intelligence émotionnelle est au moins aussi importante que l'intelligence pure, qu'on appelle le QI par exemple, pour prédire la réussite sociale, la réussite professionnelle, la réussite dans la vie privée.
Et ça, il y a vraiment des travaux qui étayent ces propos-là
aujourd'hui. Oui, énormément, et qui sont pas les plus récents, mais par contre la dernière vague de travaux qui là pour le coup sont entièrement récents, qui ont pas plus d'un an, c'est qu'on a commencé à vraiment observer comment ça se passe dans le cerveau, où cette intelligence émotionnelle se manifeste dans nos neurones, comment elle s'articule, comment elle fonctionne, et même comment on peut éventuellement l'améliorer, y compris par des instruments des neurosciences.
Ouais. Alors justement, Julien Bernard, ce qu'on voit aujourd'hui vraiment, c'est que ces émotions alimentent toutes nos relations sociales. Elles sont la clé au fond de toutes les interactions entre les êtres.
Oui, et pour rebondir sur ce que disait Sébastien Boller à propos de Damasio, le problème des choix, quand on a effectivement cette lésion du cortex préfrontal, se manifeste particulièrement dans les relations sociales. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas autant pour des tâches purement cognitives et individuelles, il y a peut-être moins d'incidence, mais pour les relations sociales, il faut s'adapter à l'autre. Il faut prendre conscience de ses propres émotions qui manifestent nos propres désirs, nos propres intérêts dans la situation, etc. Et effectivement, les émotions s'immiscent dans quasiment toutes les interactions.
Dans quels groupes sociaux, justement, vous avez pu étudier le fonctionnement des émotions, Julien Bernard ?
Alors, je mène, si vous voulez, de front deux champs de recherche, un de réflexion sociologique sur les émotions et un autre qui a trait à la sociologie et à l'anthropologie de la mort. Mmh. Et j'ai étudié, par exemple, le travail des pompes funèbres. Et là, on voit bien que dans une situation très délicate comme celle que traversent les familles endeuillées, l'intelligence émotionnelle du conseiller funéraire va avoir une importance très importante, commerciale aussi, mais bien évidemment éthique et psychologique pour l'accompagnement dans le deuil des familles et la capacité d'avoir de l'empathie, par exemple, de trouver les bons mots, de se dire écoutez, prenez le temps de la réflexion, ce genre de choses. Sont très importantes pour la qualité du service.
Ouais, mais dans les groupes, évidemment, de collègues, par exemple, au travail, dans la famille, chez les enfants hein, aussi, vous avez pu justement étudier cette question des émotions. Sébastien Moller, donc c'est vraiment la clé de la réussite. Alors, ce qui est étonnant, hein, c'est qu'on voit qu'on peut réussir, alors on peut mettre le mot entre guillemets, mais en tout cas avoir des avantages sur à la fois ses relations sociales, mais sur sa santé physique et psychique aussi.
Oui. Effectivement, donc ça c'est de plus en plus d'études épidémiologiques qui convergent vers ce constat, c'est que les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée, en général, réussissent mieux professionnellement. Alors c'est pas forcément le facteur le plus important, il y a toujours un débat, est-ce que c'est plus l'intelligence, le QI ou l'intelligence émotionnelle? Il y a des chercheurs qui sont allés jusqu'à dire que 80% de la réussite professionnelle était attribuable au QE, au quotient émotionnel, d'autres qui vont plus vers 10%. En tout cas, ça joue un rôle important effectivement dans la réussite sociale, professionnelle, et effectivement ça a un retentissement sur la vie de famille, sur le stress qu'on est capable de réguler ou pas face à des événements et des épreuves de la vie, de tous les jours, et en dernier lieu sur notre santé physique, puisqu'on voit que ça a un impact sur la probabilité de développer un diabète, de développer des maladies cardiovasculaires, et sur toute une litanie de pathologies mentales. Ouais. Ça va de la dépression, troubles bipolaires, en passant par les TOC, enfin vraiment, c'est trans-nosographique. Ouais. Ça touche tout un spectre de pathologies, et ça montre toute l'importance finalement que nos émotions sont là en permanence, et si on les gère mal, si on les identifie mal, si on est mal capable de les réguler, évidemment, ça va avoir un impact à la fois sur notre psyché et sur notre corps.
Ouais, la compréhension donc de cette intelligence émotionnelle qui montre qu'on a moins de risques de tomber malade, par exemple, et de souffrir d'un certain nombre de pathologies dont vous venez de parler. On va écouter justement l'extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur Arte il n'y a pas très longtemps autour de l'astronaute Thomas Pesquet. Et on voit aussi que dans ces métiers tout à fait particuliers, cette profession d'astronaute, eh bien, l'intelligence émotionnelle joue pour beaucoup.
Définir le bon profil pour des missions inédites de très longue durée était un pari sur l'inconnu. Une qualité, moins recherchée auparavant, semblait essentielle, l'intelligence émotionnelle.
Dans le cas des missions de longue durée, en fait, quel que soit le contexte, ce qu'on va rechercher, c'est une intelligence émotionnelle aussi. Ça veut dire qu'on est capable de se rendre compte de ce qu'on ressent, des comportements qu'on est en train de mettre en œuvre, des limites de ces comportements et des stratégies qui permettent de résoudre les conflits et le stress. Les candidats qui sont retenus sont exceptionnels parce qu'ils combinent toutes ces aptitudes physiologiques, psychologiques, opérationnelles. Ils ont les compétences, ils ont le CV qui va avec. Donc avoir des gens qui combinent tous ces aspects-là, oui, c'est exceptionnel.
Voilà, c'était la voix du psychologue Amaury Solignac, qui est spécialisé dans les milieux extrêmes. Donc on va plus loin dans tous les sens du terme, justement, avec une meilleure maîtrise de l'intelligence émotionnelle, Sébastien Moller, visiblement.
Oui, ce qui est au cœur du débat, c'est la capacité de prise de décision judicieuse. Et évidemment, dans les contextes comme les vols spatiaux, c'est essentiel. La prise de décision, c'est quelque chose de compliqué parce que nos décisions sont prises par un cerveau qui est sur un corps. Et notre corps, il est traversé par des émotions. Et malheureusement, souvent, c'est les émotions effectivement qui dictent la prise de décision. Il y a notamment des études sur les erreurs qui sont prises par des pilotes lors des crashs aériens qui montrent que très souvent, il y a une sorte de blackout du jugement, de la prise de décision dans des situations émotionnelles élevées, de stress élevé, qui font qu'on ne voit plus les choses avec suffisamment de recul. Mmh. Et on commence à être guidé par la peur, par la colère, par l'angoisse, par tout ce qu'on veut. Et l'intelligence émotionnelle, son but, ça va être d'introduire une distance justement entre l'émotion qu'on ressent et le comportement. Et cette distance-là, c'est un petit pas de côté, un recul du cerveau par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se dire « Ah, là, je suis en train de vivre cette émotion-là. » Et comme je l'ai identifié, que j'ai mis un mot dessus, et le travail sur les mots d'ailleurs, c'est un des outils essentiels pour développer l'intelligence émotionnelle, savoir distinguer la jalousie de l'envie, la colère de la fureur. Une fois qu'on a mis un mot précis sur l'émotion, ça permet d'essayer de savoir d'où elle vient. Qu'est-ce qui, dans notre environnement, a provoqué cette émotion en nous? Parce que c'est à partir de là qu'on peut savoir ce qui cloche ou ce qui cloche pas, et prendre quelques secondes, non pas pour réagir dans l'impulse, mais pour prendre vraiment la décision qui correspond à la situation qu'on a analysée. Donc ça se passe en plusieurs étapes, hein, comme le disait Julien, c'est identifier ce qu'on ressent, en comprendre la cause, et prendre une décision qui soit en accord avec nos valeurs, en accord avec le but poursuivi, en accord avec les données du contexte.
Julien Bernard, quelle est la place du corps justement dans ce travail sur les émotions que vous avez réalisées? C'est pas totalement dissocié quand même?
Non. Je ne sais plus qui disait, peut-être Descartes, que l'âme était comme un capitaine en son navire. Or, le corps, le navire gouverne aussi le capitaine. Hein. Donc, effectivement, il y a des influx nerveux, des influx hormonaux, un corps qui parle et un cerveau qui comprend ça dans un second temps. Et effectivement, tout ce travail individuel sur les émotions. On parle souvent en sociologie plus de travail émotionnel que d'intelligence émotionnelle, mais en fin de compte, les deux concepts sont assez proches. Ce travail psychologique est extrêmement important pour les prises de décision optimales, etc., de tout ce que vous avez évoqué. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que ce travail n'est pas qu'individuel, il est aussi collectif, il s'apprend. Je suis très intéressé par le développement des formations professionnelles aujourd'hui autour de la gestion du stress, autour de la gestion des émotions. Donc il y a aussi une socialisation à ça, et l'identification des émotions, elle passe aussi par un travail éducatif, par le rôle des parents, par le rôle des professeurs, etc.
On va y revenir, parce que c'est
toute une construction
absolument essentielle, et vous le spécifiez bien dans le dossier, Sébastien Moller.
C'est très juste, parce que si ce travail doit être collectif, c'est aussi parce que les émotions, on a oublié de dire, sont extrêmement contagieuses. On se demande même si c'est pas une des causes de leur existence, pourquoi elles ont été sélectionnées dans notre espèce. C'est que quand vous êtes dans un groupe et que quand quelqu'un commence à avoir peur, la peur peut se répandre comme une traînée de poudre. Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, à la psychologie expérimentale, on comprend comment ça fonctionne. Vous connaissez les neurones miroirs, les phénomènes de résonance émotionnelle, d'empathie, qui font que les émotions ne sont jamais entièrement individuelles. Et on parle même de partage social des émotions.
Et on verra avec vous dans un instant comment ça se passe au niveau de notre cerveau, justement. Et l'intelligence des émotions, c'est avec vos messages sur le site de La Tête au Carré.
Had the right to control their lives and to control their destinies.
You can beat me or jail me, or even kill me, but I'm not going to be what you want me to be.
Freedom, gotta stay free. Gotta stay free.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que l'heure et le môme dansent ensemble. Pire, s'amourache et se fréquente sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic, on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans leur rang, si possible à grands coups de paix.
Tu sais, je vis de petits riens, leur gueule de petit saint. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donnent la patte et la ferment sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, y'a pas de gun sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à quatre pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt.
Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de nailles blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés.
Ils disent y'a trop de zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur pote aime nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Et c'est Monnaie de Singe, I am.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et avec mes invités, Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho. Comment bien utiliser ses émotions en une, donc ce mois-ci dans les kiosques bien-être, famille et travail. Et Julien Bernard pour la partie sociologie, la concurrence des sentiments. C'est une sociologie des émotions chez Métellier. Votre ouvrage vient de paraître. Alors pas mal de messages des auditeurs. Antoine, tiens peut-être Sébastien qui vous demande comment on peut évaluer une intelligence émotionnelle. Alors il y a des grilles d'évaluation.
Il y a effectivement des échelles scientifiques qui ont été construites depuis déjà... plus d'une quinzaine d'années, il y en a qui sont très classiques, qui comportent plusieurs dizaines de questions. Par exemple, le MSCEIT, bon, c'est un acronyme, c'est une échelle classique. Vous avez des questions qui vous dites, par exemple, vous êtes dans telle situation, votre supérieur est insupportable avec vous, qu'est-ce que vous faites? Petit A, je me mets à pleurer. Petit B, j'essaye de mettre les choses à plat. Petit C, j'essaye de comprendre ce que je ressens. Voilà, c'est des questions très simples, comme ça, basées sur le quotidien, mais qui sont analysées ensuite par des outils informatiques. Il y en a qui sont très, très nourris, qu'on peut trouver sur Internet, auprès d'organismes spécialisés qui vous donnent un diagnostic en ligne. Nous, on publie un questionnaire d'une trentaine de questions qui analyse les deux grands piliers de l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence émotionnelle intrapersonnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité à interagir avec les autres, à analyser leurs émotions, ou au contraire, la capacité d'introspection pour savoir ce qu'on ressent soi-même. Les deux sont importantes, mais le questionnaire permet de faire le tri entre les deux.
Et vous, Julien Bernard, comment vous travaillez alors sur ce thème des émotions? Alors, vous avez pareil, des entretiens, là, pour le coup, que vous menez avec des individus pour comprendre le collectif?
Oui, classiquement, il y a des méthodes de la sociologie qualitative qui se basent sur des entretiens et des observations dans des lieux et auprès de populations bien définies, et des enquêtes plus quantitatives. Par exemple, dernièrement, l'INSEE a fait pas mal d'études sur le bonheur, et donc là qui fonctionne par questionnaire et analyse statistique. Donc identification des émotions, catégorisation, comparaison, voilà, comme
et résultats et analyse. Eric nous dit dans un message, mon frère travaille aux urgences, il est constamment sur les nerfs. Malheureusement, ses collègues semblent très renfermés sur l'expression de leurs émotions, il n'arrive pas à en parler avec eux. Il déverse donc ses angoisses sur ses amis et sa famille, ce qui nous bouleverse tous. Que peut-il faire pour mieux gérer ses émotions? Alors peut-être, je vais chacun vous poser une partie de la question, peut-être la première partie pour vous, Julien Bernard. Ce travail collectif justement d'expression des émotions, il est pas simple à mener, hein?
Oui, bah là, du coup, il n'y en a pas, apparemment.
C'est ce que vous avez observé aussi, la plupart du temps, ou pas?
Il peut y avoir des entreprises ou des services dans lesquels vous trouvez des individualités qui sont fermées à l'expression des émotions pour X raisons. Donc là, on est sur une explication psychologique, si vous voulez. L'explication sociologique, elle, va être de généraliser, de regarder un plus grand nombre de cas et de se demander, est-ce que c'est pareil dans tous les services d'urgence ? Auquel cas, est-ce que c'est une culture de service ? Est-ce que c'est lié à la place des urgences dans l'hôpital ? Est-ce que c'est lié aux contraintes objectives de l'activité, aux difficultés rencontrées, à l'absence de soutien hiérarchique qui serait structurel à l'hôpital, etc. Voilà, tout un tas d'autres questions qui ne fait pas peser la difficulté du travail sur le seul individu. Quoi.
Ouais. Mais est-ce que justement, collectivement, on arrive à prendre en charge parfois, dans certains métiers, les émotions de tous les individus pour en faire quelque chose, justement ?
Il y a eu beaucoup de travaux ces derniers temps sur la souffrance au travail et sur les risques psychosociaux et qui mettaient bien en avant le rôle quand même globalement positif du collectif de travail qui fonctionne normalement comme un soutien émotionnel. Du coup, on peut avoir une division du travail émotionnel. Si on voit que celui-là, enfin, tel individu a du mal avec telle tâche pour telle ou telle raison, on va le remplacer à charge de revanche. Il y a des arrangements qui se font et dans les cas de coup dur, le collectif est un véritable soutien. Il peut y avoir par contre, des cas pathologiques où le collectif de travail va introduire, peut-être par excès de compétition interne, etc., une situation délétère et potentiellement pathogène.
On va écouter le témoignage de cette femme qui avait été interrogée à l'occasion d'un documentaire qui s'appelait « Le blues des infirmières ». Écoutez-la.
Je dirais que c'est un métier humain et que ça, c'est juste énorme de pouvoir se lever le matin et se dire qu'on va s'occuper des personnes et prendre soin des gens. Et je sais que c'est ce qui me motive, moi, tous les matins ou tous les après-midi quand je vais travailler.
Mesdames, bonjour. On va vous installer en salle de soins.
Je me souviens d'un jour où un petit monsieur, il était en fin de vie, il n'était pas bien, il était gêné pour respirer. Et en fait, il était tout seul dans la salle d'examen. Et dès que je rentrais le voir, il m'attrapait la main. Et à travers le masque à oxygène qu'il avait, il avait juste les mots... Enfin, j'arrivais à lire sur sa lèvre et il disait juste « merci ». Et voilà, rien que d'en parler, ça me redonne la chair de poule. Et il me le disait, mais 4 à 5 fois, j'arrivais plus à ressortir du box. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Et je fais ce travail-là pour ça.
Voilà, Sébastien Boller, le témoignage de cette infirmière dans un métier, évidemment, où les émotions sont particulièrement saillantes. Hein. Oui. Pour répondre à la question d'Éric, comment on peut gérer au mieux ces émotions individuellement et dans un ensemble plus collectif, alors ?
Dans un ensemble plus collectif, je rejoindrai ce qu'a dit
Julien Bernard.
C'est qu'il faut évidemment en parler. Je pense que l'attitude des collègues qui essayent de... qui gardent le silence sur ce qu'ils peuvent ressentir. C'est un des dangers, effectivement, de profession où on ressent beaucoup d'émotions, où on peut être en lien empathique avec des gens qui vivent des choses très dures. Et une des réactions possibles, c'est justement de murer complètement l'empathie. C'est une réaction d'autopréservation qu'on voit souvent dans les métiers médicaux ou humanitaires confrontés à une misère trop grande, et ça peut se comprendre. Et au niveau individuel, quand même, je pense que ces situations où des professionnels de santé vivent des flux d'émotions énormes en permanence, ça pose une vraie question, qui est vraiment la question du burn-out dans ces professions, à la fois humanitaire et médicale, c'est les plus touchés. C'est à des moments où c'est trop. Donc il se pose la question des cadences de travail, de l'organisation du travail, parce que l'être humain peut pas être traversé par un flux émotionnel illimité. Donc après, on peut mettre en place tout ce qu'on veut au niveau personnel pour dire, allez, je vais faire de la méditation de pleine conscience. Ça aide, c'est vrai, pour essayer de prendre conscience de ce que je ressens, accepter mes émotions, ne pas être submergé. Mais il y a un moment, quand même, on a nos limites, et surtout au niveau émotionnel.
Vous insistez beaucoup sur le dossier sur la régulation des émotions, hein, parce que vraiment, vous distinguez 5 compétences autour de l'intelligence émotionnelle. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Hein, l'importance de ressentir déjà aussi, de mettre des mots et puis de comprendre les causes de l'émotion. Mais vous insistez sur la régulation des émotions.
Oui, alors c'est vrai que vous avez dit, d'abord quand même, savoir ce qu'on ressent, c'est le premier pas pour réguler ses émotions. C'est la première des grandes compétences émotionnelles, c'est l'identification de ses émotions. C'est pas un mot en l'air, parce que il y a une pathologie quand même très sérieuse qu'on appelle l'alexithymie.
Qu'est-ce que c'est ?
L'alexithymie, c'est le fait de ne pas être capable de savoir ce qu'on ressent.
Ouais.
Toutes les émotions qui vous traversent, vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, vous ne savez pas. Vous vivez une émotion, ça peut être de la colère, de la peur, de l'angoisse, n'importe quoi. Ces personnes-là ne savent pas ce que c'est.
Et c'est 10% de la population, apparemment ?
C'est À peu près, ouais. C'est jusqu'à 15% chez les hommes, en fait. Les hommes sont plus touchés.
Alexithymique, hein.
C'est l'incapacité de déchiffrer ses émotions. Mm-hmm. Et ça débouche sur des pathologies quand même assez lourdes, hein, au niveau psychologique et physiologique aussi, avec beaucoup de dépression, beaucoup de pathologies. Et donc, c'est très important de savoir mettre un mot sur ce qu'on ressent pour ensuite pouvoir agir sur son émotion. Alors, on entre ensuite dans la régulation. Alors moi, je pense que s'il y avait un message à faire passer, c'est que il faut pas se tromper sur ce que c'est qu'une émotion. C'est que tous les, vous savez, les biologistes qui réfléchissent sur les origines de nos émotions à travers les âges vont vous dire que les émotions, en fait, c'est un message que notre corps nous adresse. Et ce message, il faut le comprendre. Et si vous êtes énervé par une situation, la bonne attitude, c'est de comprendre ce que veut dire cet énervement, quel message il vous adresse. Donc vous allez devoir essayer de comprendre ce qui, dans la situation, vous a énervé. Et le but, ça va être ensuite d'agir, c'est-à-dire de prendre une décision pour modifier cette situation, pour qu'elle ne soit plus énervante. Et ça, à la limite, c'est le meilleur moyen de régulation, c'est d'agir sur la cause de l'émotion. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Après, on peut essayer de réguler l'émotion elle-même, le ressenti lui-même. Et ce que vont vous dire tous les psychologues là-dessus, c'est qu'il faut commencer par accepter son émotion. Il faut pas être dans l'évitement, parce que une des possibilités qu'on privilégie souvent, c'est que si vous êtes angoissé, par exemple, dans une certaine situation, par exemple, quand vous êtes entouré de plusieurs personnes, ce qu'on appelle l'anxiété sociale, ça vous angoisse d'être au milieu du monde. Vous allez tenter d'éviter toutes les situations où vous vous retrouverez en groupe. Situation d'évitement, comportement d'évitement, et donc vous allez avoir de plus en plus peur de vous retrouver en groupe parce que vous avez le réflexe de vous replier sur vous-même. Donc il faut surtout pas être dans l'évitement. Quand l'émotion arrive, ce qu'on va conseiller, c'est de commencer par l'accepter. Dites, ok, je suis énervé ou je suis stressé, je suis angoissé. Vous mettez un mot dessus, vous l'acceptez. Et une des grandes lois des émotions aussi, c'est qu'elles ne sont pas perpétuelles. Une émotion, par définition, ça dure quelques minutes. Et au bout d'un moment, ça décline. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à certains d'entre vous, par exemple, d'avoir des scènes de ménage, vous disputez pour une question X ou Y. Les gens qui ont un petit peu l'habitude savent que souvent, il suffit d'attendre un petit peu. Et au bout de quelques minutes, on dit, mais pourquoi je me suis énervé?
Ça s'appelle réguler, ça.
Ça, voilà. C'est déjà attendre, c'est une façon
tout
de réguler.
Après, oui. Julien Bernard, le couple, ça intéresse aussi la sociologie?
Ah oui, bien sûr, oui. C'est une unité fondamentale qui, les couples vont faire des enfants, couples et enfants vont faire une famille, plein de familles vont faire une société. C'est vraiment fondamental. Et sur les relations de couple, il y a beaucoup de sociologues qui étudient la gestion des agacements aussi dans le couple et le travail émotionnel que vivre en couple nécessite.
Et donc la régulation, ça vous parle aussi?
Bien sûr. Ce que je voudrais rajouter d'un point de vue de sociologue, c'est que cette régulation ou ce travail émotionnel, il va se faire en fonction de la perception de nos intérêts dans la situation et en fonction de notre perception d'une norme sociale. Pour caricaturer, on pourrait dire aujourd'hui, dans notre société, il y a une norme d'égalité dans le couple et donc il faut respecter l'autre. Et c'est parce qu'il y a cette norme sociale qui s'impose un peu d'en haut, sociale, valeur, que le respect s'impose même dans les disputes.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion avec les messages qui arrivent pour vous et que je vous transmets dans un instant. Franceinter.fr, le mot-clé l'attaque. Juste après, le Velvet Underground et Nico.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind.
put down your hands, 'cause I see you. I be your mirror, I be your mirror, I be your mirror.
Écoutez, j'entends courir au-dessus de ma tête depuis 4 heures de l'après-midi. À peine une heure de répit et ça recommence avec des cris. Je vous ai déjà demandé il y a plus d'un mois de mettre de la moquette. Visiblement, rien n'a été fait. Je ne parle même pas des bruits de chasse d'eau à 2 heures du matin. Nous n'avions jusqu'à votre arrivée que des rapports de bon ton dans cet immeuble. Je suis désolé, mais je crois que malheureusement, il va nous falloir passer aux choses sérieuses.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que rien du tout. Que je vais être obligé de prendre les mesures qui s'imposent, c'est tout.
Ça va ? Le petit ton de donneur de leçons ? Le grand shérif du rue de Bellechasse ? Appelez les flics si vous voulez. Ou Rachida Dati, puisque vous la connaissez. Ça t'est jamais arrivé, du con, dans ta petite vie merdique, de t'engueuler avec Madame de la Chaise, d'avoir un de tes 7 gosses qui joue à autre chose qu'au Milbourne et d'avoir envie de pisser après 22 heures ?
Mais moi qui pensais que dans votre ménage, il y avait au moins quelqu'un de civilisé, je veux dire que je me suis trompé sur toute la ligne.
Voilà, 100% Cachemire, film écrit et réalisé par Valérie Le Mercier, sorti en 2013. Voilà un petit exemple de relation de voisinage, Sébastien Boller, sur la gestion des conflits.
Oui, et puis qui montre que chacun peut avoir son propre niveau d'activation émotionnelle. Hein. Vous avez des personnes qui sont habituées à vivre avec un niveau émotionnel très 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 bas, et puis d'autres qui aiment bien dans l'activité, et dans les relations de voisinage. Oui, effectivement, ça peut donner des frictions. Hein.
Qu'est-ce qui nous montre notre cerveau ? Alors justement là, quand on passe vraiment à l'IRM, au scanner, est-ce qu'on voit des choses très très délimitées sur cette intelligence émotionnelle ?
Ah oui, alors là, on entre dans la neurobiologie de l'intelligence émotionnelle. Effectivement, ça a été bien nourri par les études qui ont paru ces derniers mois, et où on a découvert effectivement plusieurs régions du cerveau qui sont plus développées chez les personnes qui ont une intelligence émotionnelle plus élevée. Et alors, il y a à la fois une région qui s'appelle l'insula, qui est une sorte de senseur de nos états internes, donc c'est pas très surprenant, une partie de notre cerveau où finalement toutes les modifications d'ordre humoral, hormonal qui se passent quand vous êtes tendu, quand vous êtes joyeux, sont transmises en fait et représentées dans cette insula, et c'est un premier pas vers la prise de conscience de ce qu'on ressent pour ensuite aller vers une vraie intelligence émotionnelle. Ça serait plus associé à l'intelligence intrapersonnelle. Mmh. Les personnes qui ont une bonne introspection pour savoir ce qu'ils ressentent, qui peut être très développée aussi par la méditation. Et puis, un autre volet de zone cérébrale et qui, étonnamment, se trouve être ce qu'on appelle le réseau de la cognition sociale.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a en gros trois zones du cerveau qui interagissent et qui nous permettent finalement d'attribuer des intentions aux autres, de se mettre à la place des autres, de détecter leur état d'esprit. Et ce réseau de la cognition sociale semble très très important. Il s'associe avec les zones de l'intelligence classique pour fonder l'intelligence émotionnelle au sens propre.
Ouais.
Et après, on voit aussi que chez les personnes qui ont une intelligence émotionnelle très élevée, il y a des connexions très importantes entre, par exemple, le réseau de la cognition sociale et la partie du cerveau qui nous sert à voir, par exemple, les visages. Ce qui explique que si vous voyez un visage qui exprime de la suspicion, par exemple, ne serait-ce que par un petit mouvement du coin droit de la lèvre, chez les personnes qui ont cette connexion très développée, la scène à peine vue par la partie corticale visuelle du cerveau est tout de suite transmise avec une vitesse grand V au réseau de la cognition sociale, qui va tout de suite décrypter ce petit mouvement de lèvres et permettre une interprétation. Voilà. Et puis, un autre faisceau de substances blanches, en fait, c'est les fibres de transmission à haute vitesse dans le cerveau, qui est très développé chez les personnes très intelligentes émotionnellement, comme vous, Mathieu.
Merci beaucoup. Entre
le cerveau social et l'amygdale. L'amygdale qui est le centre bouillonnant des émotions primaires. Ce qui fait que votre cerveau social va être capable de dire, attention, là, c'est pas la peine de lancer une réaction d'embrasement général du cerveau parce qu'il y a eu cette petite dispute entre mes collègues. Je vais tout de suite apaiser ça. Je vais apaiser mon amygdale avec mon cortex frontal.
Donc tout ça se voit très bien dans le cerveau.
Oui, alors et sur l'amygdale, pour revenir à ce qu'on disait, pour réguler cette amygdale, c'est très intéressant, c'est que on s'est rendu compte que le simple fait d'exprimer une émotion fait baisser l'activité de l'amygdale. C'est-à-dire, si vous ressentez une émotion, par exemple de l'irritation ou de la colère, de l'indignation, à partir du moment où vous vous dites « je suis indigné », ben, l'activité de l'amygdale qui aurait envie de vous faire ruer dans les brancards baisse par le simple fait qu'il y a un mot qui est posé dessus.
Julien Bernard, les émotions, c'est une histoire de communication finalement. Aujourd'hui, dans une société qui ne fonctionne quasiment que là-dessus, hein, on voit que les interactions sont très très fortes autour des réseaux justement.
Oui, oui, de communication et de régulation. On y revient encore, mais les émotions, malgré tout, notre sang-froid, notre contrôle s'expriment, et elles s'expriment pas n'importe comment. C'est aussi cadré par les autres, orienté éventuellement. Mm-hmm. Je pense par exemple aux mobilisations collectives qu'il peut y avoir, aux manifestations politiques, etc. Les gens individuellement peuvent avoir cette émotion qui les pousse à agir, mais ça s'insère dans des collectifs qui vont orienter, canaliser, réguler, pour que l'action soit le plus efficace possible. Donc cette expression et cette régulation, elle n'est jamais laissée à l'individu seul et s'insère le plus souvent dans des collectifs.
Monique nous dit, au Québec, mes enfants ont fait un programme qui s'appelait Vers le Pacifique à partir de l'âge de 4 ans. On donnait aux enfants des moyens pacifiques de régler leurs conflits, se calmer, se parler des faits, de ses sentiments, chercher des solutions possibles et trouver une solution pacifique. Ils sont maintenant adultes et il y a une vraie différence dans leur gestion des conflits.
C'est formidable, on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a tout un rôle éducatif, savoir nommer les choses, comme Sébastien disait tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Il y a des registres de langue, d'ailleurs, certaines cultures qui ont plus de mots pour certaines émotions, moins pour d'autres, etc. Et les formes éducatives vont jouer sur le caractère, la personnalité des individus plus tard.
Marjorie nous dit, dernier témoignage à l'hôpital après un accouchement tragique. Le service m'a envoyé ses psys et la seule qui m'a un peu aidé était la psy en formation. Elle compatissait réellement à ce que je vivais, avait un intérêt sincère, alors que les psys expérimentés avaient une tête de circonstance et un discours tout fait qui ne collait pas à ma réalité. Est-ce qu'il n'y a pas une disparition d'empathie dans ce genre de profession, Sébastien Boller?
Oui. Ce sont des témoignages qui reviennent effectivement, qui sont parfois choquants. Parfois de la part de professionnels qui occupent des postes de très haute responsabilité et qui échouent complètement à entrer en compatie avec leurs patients parce que sans doute que c'est difficile quand on a passé par 20 ans de pratique de continuer à s'exposer finalement à la fontaine brute des émotions. Je crois que ça demande une préparation, en fait, une préparation mentale et émotionnelle que n'ont pas tous les spécialistes en fait en santé et qui devraient être inscrits dans les formations.
En tout cas, il y a beaucoup de questions de la part des auditeurs sur les clés pour mieux gérer les émotions et cette intelligence émotionnelle. C'est ce que vous faites justement dans ce numéro de Cerveau et Psycho. Comment bien utiliser ces émotions? Et il est en kiosque en ce moment, tout comme en librairie, votre ouvrage, Julien Bernard, La concurrence des sentiments, et c'est une sociologie des émotions, publié aux éditions Métellier, dans la collection Traversée. Merci beaucoup.
Merci
à tous les deux d'être venus nous en parler.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mercredis, on retrouve la case grand format de France 5 avec ce soir à 20h50 La Terre sous influence. Thierry Minot, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous travaillez à la direction de l'unité documentaire de France 5. On va donc découvrir ce soir notre planète sous l'œil des satellites.
Exactement, c'est un secret pour personne. Des milliers de satellites scrutent notre Terre en permanence, et ce avec une précision assez extraordinaire. Aujourd'hui, grâce à eux, on peut se rendre compte à quel point notre Terre est vivante. C'est un organisme dynamique, sans cesse en évolution, et où tous les phénomènes semblent interconnectés les uns avec les autres. Et ce qui est intéressant, et ce que le film montre très bien ce soir, c'est quelles sont les forces. Quelles sont ces forces qui traversent en permanence notre globe et en déterminent le fonctionnement, comme la forêt amazonienne.
Exemple justement, extrait de ce documentaire à voir ce soir.
Chaque jour, la forêt amazonienne fabrique un cinquième de l'oxygène de notre planète. Nous l'avons longtemps considérée comme le poumon de la Terre. Mais à présent, les satellites nous permettent de voir que les choses ne sont pas aussi simples. Grâce aux observations satellites, on a constaté qu'au cours de la nuit, la forêt amazonienne réabsorbait la plupart de l'oxygène produit durant la journée. Pour libérer un excédent d'oxygène, il faut donc une étape supplémentaire.
Alors justement, quelle est cette étape, Thierry Minot? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, bien sûr. En fait, à peu près toutes les 24 heures, il y a 2 millions de tonnes de sédiments qui sont déversés dans le fleuve Amazon par cette forêt amazonienne. Ces sédiments dérivent et se jettent de façon logique dans l'océan Atlantique, et c'est là que le plancton qui est présent dans l'eau les absorbe. En se reproduisant, ces masses de plancton dégagent une quantité d'oxygène absolument phénoménale, et cette masse et cette quantité d'oxygène, pardon, est responsable de la moitié de l'oxygène de la planète. Donc on peut dire que le véritable poumon de la Terre, en plus de la forêt amazonienne, ce sont également de minuscules créatures qui se trouvent dans l'eau.
Voilà, donc ce sont des images, on verra, très impressionnantes hein, d'ailleurs, que vous diffuserez ce soir, et puis qui permettent de voir la Terre comme une machine bien réglée au fond. Hein.
C'est absolument extraordinaire et ce documentaire est vraiment rempli de plein d'anecdotes, de petites choses qui nous apprennent vraiment comment fonctionne notre planète. Et c'est vrai que et les prises de vue et les explications permettent de se rendre compte à tel point que notre planète est un organisme qui vit, qui évolue et qui bouge.
Et c'est Terre sous influence, et donc ce soir à 20h50 dans la case grand format de France 5. Merci beaucoup Thierry Minot.